Bon, les mémoires d'Henri Faron étaient plus ou moins connues dans des cercles d'initiés, puisque la famille les laissait voir à ses amis. Mais par contre, ils n'avaient pas vraiment été publiés. Ils ont été publiés une fois en résumé dans la revue Intervalle. En ce qui concerne le journal d'amis, c'est une histoire différente, puisque c'est la famille qui conservait ce document très, très précieusement et qu'elle a eu la très bonne idée de déposer ce journal à Mémoire d'ici. Nous avons la chance dans le Jura-Bernois d'avoir un centre qui récolte les archives privé en particulier, et qui est une chose très très précieuse, puisque ces documents à valeur familiale ont aussi une valeur universelle, c'est-à-dire qu'ils intéressent l'ensemble de la population, et quand une famille décide de déposer ses papiers, elle fait un geste d'utilité publique, on va dire.
Alors c'est des documents différents, hein. Henri Faron a écrit pour laisser une trace à ses héritiers, on peut le soupçonner parfois d'embellir peut-être un peu la réalité, oui. Alors que sa sœur, elle écrit au quotidien dans son journal, du coup ça fournit des informations très différentes.
Bon, ils ont aussi un âge différent, ils ont à peu près 16 ans de différence, 14 ans de différence, et donc ils ont une sensibilité très différente. Lui est un conquérant, il part là-bas pour l'aventure, il réussit pas tout de suite, mais assez rapidement, il s'insère dans des milieux sociaux tout à fait favorisés, et donc tout va bien pour lui, et il pourra écrire à la fin de sa vie, j'ai été heureux en Russie et malheureux en Suisse. Il a rencontré toutes sortes de personnes, il n'a pas été vraiment à la cour du tsar, mais il a rencontré le tsar, il a rêvé de pouvoir éduquer ses enfants. Un coup de malchance a fait qu'il n'y est pas parvenu, mais il était tout près du but. Tandis qu'elle, alors qu'elle était reconnue comme une excellentissime institutrice, a eu tout de suite des places très intéressantes dans des familles aussi aisées, mais le fait que ces personnes, en particulier de sexe féminin, voulaient s'expatrier pour s'extraire d'une situation accablante du point de vue matériel, leur rendait la liberté dans la mesure où elles étaient protégées, mais leur enlevait en même temps cette liberté, puisque qu'elles étaient condamnées à suivre ces familles partout où elles allaient. En l'occurrence, Lydia Mi a été auprès de la famille du général Mouraviev pendant un très grand nombre d'années. Le général Mouraviev allait d'une tâche militaire à une autre tâche militaire, la dernière étant de commander les armées russes dans le Caucase au moment de la guerre de Crimée. Et donc, elle était toujours isolée, en quelque sorte, et assez malheureuse, on va dire. Donc, son journal lui servait d'exutoire pour épancher ses sentiments. Elle dit c'est pour écrire mes jérémiades. Et donc ça s'en ressent beaucoup.
La Russie qu'on découvre à travers leurs plumes, elle est comment ?
Mais c'est d'abord l'immensité qui est totalement impressionnante, les écarts sociaux incroyables, en même temps l'intérêt des classes aisées pour l'Occident. On lit la littérature européenne, on est aussi très intéressé par la littérature russe, bien sûr, mais il y a toute cette vague pro-occidentale en Russie qui est très très impressionnante. En même temps, quand Lydia Mi arrive dans les villes de l'Ouest russe, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui la Lituanie, la Pologne, on est confronté à la mixité des populations, avec des populations juives, par exemple, extrêmement nombreuses et extrêmement visibles. Enfin, c'est un pays très, très varié. On est surtout frappé par l'immensité quand on pense que Henri, en 1821, lorsqu'il quitte son pays, 1823, pardon, il part en calèche et il arrive là-bas en calèche. C'est la même chose pour sa sœur quand elle part avec lui, il est venu la chercher en 1837. Par contre, en 1848, quand il revient en train et il fait le voyage en 6 jours. Il y a un changement énorme des conditions de voyage dans le continent, et c'est aussi ces aspects-là que ces journaux ou ces documents éclairent.
Est-ce que dans l'état d'esprit, c'était proche de ce que l'on connaît aujourd'hui avec les gens qui partent dans un pays ? On sait qu'on part plus facilement, notamment sur d'autres continents, mais est-ce que l'état d'esprit à la base est tout de même un petit peu le même ?
Je ne sais pas ce que vous entendez comme état d'esprit. Là, ils étaient condamnés à partir. Je prends l'exemple de Henri, par exemple. Lorsqu'il part, son père lui donne 3 montres à répétition qu'il pourra vendre le long du voyage pour avoir assez d'argent pour poursuivre le chemin. Il arrive à Vienne, ensuite il arrive à Lemberg, c'est-à-dire l'actuel Lvov, à la frontière des terres russes, et il n'a plus un sou. Et il pleure dans une auberge sur son sort, il s'épanche assez volontiers, et c'est un marchand zurichois qui passe par là et qui le voit pleurer. désespéré, qui lui dit qu'est-ce qui se passe. Et il raconte son histoire et le marchand zurichois lui dit, ben, viens dans ma calèche, fais un bout de chemin avec moi, etc. Et c'est là que son destin commence. Donc vous savez, il y a beaucoup d'insécurité dans le voyage parce qu'on n'a pas de ressources, on n'a non plus pas de guide touristique qui vous dise où aller, ni d'agence de tourisme à la gare qui vous envoie dans le premier hôtel.
C'est vraiment, il n'y en a plus, hein, maintenant il n'y en a plus non plus, hein, non, des agences de tourisme à la gare.
D'accord. Donc, en fait, c'est beaucoup plus aventureux que ça n'est aujourd'hui, bien sûr. Oui.
Et puis, quelque chose qui est frappant aussi, c'est que tant les hommes que les femmes, hein, vous l'avez dit, tentaient le pari de cette migration. C'est des paris qui étaient difficiles à tenir.
Ben, pour les femmes en particulier, puisque partir en calèche, ne pas savoir où on allait, ne pas savoir où on allait passer la nuit, c'était lié à un certain nombre de risques. Généralement, on partait à plusieurs. Là, par exemple, quand Henri est parti, il y avait en tout cas quatre jeunes filles avec lui, de jeunes filles biennoises qui trouvent à se placer assez rapidement et dont il perd la trace. Mais néanmoins, pour les filles, c'est beaucoup plus compliqué. Et à partir de 1850 environ, lorsque les chemins de fer auront été construits, alors là, explosera vraiment l'immigration quand elles seront certaines de pouvoir trouver une situation sans prendre trop de risques le long du chemin.
Pierre-Yves Meuchler, on vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé sur cette destinée ce matin. Pour ceux qui veulent en savoir plus, la revue Passé Simple, dans laquelle est publié ce dossier sur les mercenaires du français en Russie. On mettra toutes les informations sur la page internet de Format 3. Et on vous souhaite une très très belle journée. Merci.
Merci.